bonjour à tous.
Hop, ça marche, oui. Parfait. Eh bien, merci d'être tous là de si bon matin un dimanche pour parler d'utopie. L'utopie, une histoire impossible. C'est notre question pour aujourd'hui. Donc, habituellement, on considère l'utopie comme un doux rêve d'une société meilleure. Mais est-ce que la réalité des textes et des envies des écrivains d'utopie est réellement ce doux rêve, ou est-ce que c'est plus? Alors du coup, pour participer à ce débat, donc de gauche à droite, enfin de ma gauche à ma droite, Natacha Dasverès, universitaire, chargée de cours à Bordeaux 3, Joël Vintrebert, auteur de science-fiction, de thriller, de littérature contemporaine, donc auteur multicasquette, aussi scénariste pour la télé, entre autres choses, et donc Julien Niel, dessinateur de bande dessinée, et notamment le Viandier de Paul Pett, qui sera qu'on va discuter tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, je vais commencer par ça. À votre avis, est-ce que le Viandier de Paul Pett décrit une utopie?
Oui, je pense que là, on est complètement dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment la volonté d'un personnage, c'est dans l'histoire un conte un peu excentrique qui bâtit autour de lui, autour d'un château reculé, une ferme auberge qui est un lieu de rencontre, de culture, et qui est un endroit très isolé géographiquement, et qui est aussi très isolé par rapport au reste du monde. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a été mis en exil par son père, qui vivait quelque chose, qui vivait des histoires de guerre et des choses très épiques, etc., qui a volontairement envoyé son fils là-bas, et le fils a construit autour de ça un petit monde clos qui est vraiment une bulle qui le coupe complètement du monde. Donc on est vraiment complètement là-dedans. Il y aura 3 tomes de Paul Pett, et les 3 tomes ensemble formeront une chronique de cette utopie. C'est quelque chose pour Olivier, donc, qui est le scénariste et qui n'a malheureusement pas pu venir ce matin. C'était quelque chose qu'on voulait vraiment mettre en place. On voulait créer quelque chose qui soit vraiment un cocon confortable. C'est-à-dire que c'était le monde de Paul Pett, c'est nous, c'est notre salon, c'est les choses qu'on aime, les livres, la musique, c'est cette espèce de bulle qu'on s'est créée, et qui est vraiment quelque chose de complètement illusoire, et qui est presque un refuge un peu autiste pour se couper du monde. Et donc Le principe, c'était de se servir de ça comme matière première pour écrire une histoire, et de travailler vraiment sur ce concept de refuge, et donc de quelqu'un qui à un moment décide de ne pas affronter le monde, et de vraiment se mettre en marge, et de créer une petite bulle à l'extérieur de quelque chose de qui s'avère être très dur. Enfin, là, pour l'instant, on a quelques bribes sur ce qui se passe autour d'eux, d'informations par les journaux. Les journaux, d'ailleurs, il y a un personnage qui est très, très intéressé par ce qui se passe dans le monde, mais la plupart des autres nient un petit peu ça, en fait. S'y intéressent pas du tout et essayent de ne pas voir le monde autour.
J'avais une question justement pour Julien. Ce monde, ce Viandier de Paul Pett, enfin votre BD, elle me semble en dehors d'un. Enfin, c'est un contexte historique quand même particulier, ce qui nous ramène au débat finalement d'aujourd'hui, cette table ronde, c'est-à-dire utopie, une histoire impossible, parce qu'il y a des éléments historiques. Moi, ça m'a fait un petit peu penser. Il y a quelques vignettes qui sont un petit peu steampunk. Donc, on est quand même en dehors de l'histoire, ou est-ce qu'il y a éléments?
On est complètement en dehors de l'histoire. On est là dans la fantaisie. Pour moi, c'est vraiment l'héroïque fantaisie matinée de steampunk. Mais en même temps, on sait En fait, c'est simplement un fourre-tout pour mettre toutes les choses, pour mettre tous nos jouets, toutes les choses qui nous plaisent. C'est-à-dire que si on veut avoir une belle voiture anglaise, on a une belle voiture anglaise qui peut tout à fait côtoyer un chevalier en armure et un domestique qui est inspiré de Jean-Claude Brialy dans les années 70. Enfin, ça n'a pas du tout de... c'est pas du tout placé dans une histoire, etc. Pour autant, on a quand même un contexte sur ce monde, c'est-à-dire qu'on a imaginé que c'était un monde qui était passé assez brutalement d'une forme de barbarie moyenâgeuse, mais qui aurait duré très très longtemps et qui a été très très vite industrialisé et qui est passé très très vite aux Lumières, en fait, dans un laps de temps très court de 50 ans. Et toutes ces choses sont arrivées très brutalement, et donc il y a eu vraiment la démocratie qui est arrivée très 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 rapidement. C'est le personnage qui est vraiment à cheval entre l'histoire, c'est le père de Fausto. Et voilà, donc on a quand même un contexte autour de ça, et puis il y a en sous-texte des choses qui sont évoquées, c'est-à-dire qu'il y a cette démocratie qui s'est installée, mais qui est à nouveau en péril pour d'autres raisons, en fait. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui sera vraiment développé, particulièrement dans le dernier tome de l'histoire. C'est ce qui va mettre en péril cette utopie. Donc là, pour l'instant, moi, je connais des éléments importants de l'histoire, mais j'en ai pas toutes les clés non plus.
Non.
Je vais pas les donner ici non plus.
Donc, ce qui caractérise énormément la vie au sein de cette ferme, taverne, c'est la simplicité. La simplicité des relations, en même temps, la simplicité de la vie, tout simplement. Pour vous trois, d'ailleurs, est-ce que ce serait ça, la vie en utopie, Joël Vintrebert?
Alors, en fait, ce qui se rapprocherait le plus, en tout cas dans mes écrits de science-fiction, de la mise en scène d'une utopie réalisée, c'est mon roman Pollen. Et de fait, la vie dans Pollen a été simplifiée à l'extrême. C'est une utopie écologique. On y respecte énormément la nature. Les cités on vit dans des arbres qui sont des arbres vivants, hein. C'est une société qui a été mise en place par bio-ingénierie, en fait, surtout par des femmes, puisque le résumé en deux mots l'histoire, en fait, on a une société qui a été créée après l'arrivée d'une arche sur une planète, et dans cette arche, tous les hommes se sont entretués, ou en tout cas on dit qu'ils se sont entretués, et donc quand ces femmes, les femmes survivantes arrivent sur cette planète, elles décident de donner naissance, tant qu'à faire, à un monde sans violence, mais elles n'ont pas tout à fait envie de se passer complètement des hommes. Et elles vont décider de donner naissance à un monde d'où il y aura deux filles pour un garçon. Et elles décident de créer une société avec une cellule familiale complètement différente. C'était ça qui m'intéressait de mettre en scène. Puisque cette cellule familiale sera constituée d'une triade de deux sœurs, un frère, qui sont des jumeaux exacts, donc nés par clonage. Et donc ils vont être complètement fusionnels. Donc on n'a plus une cellule familiale classique avec un père, une mère et des enfants, mais une espèce de fratrie ou une sororie plutôt, puisque comme on le voit dans le livre, c'est une société qui est quand même régie par le féminin. Donc une société qui est finalement pas égalitaire, hein, puisque les femmes dominent dans la proportion de deux tiers pour un tiers. Ces femmes donc ont décidé que il fallait résoudre ce problème de la violence et que les hommes étaient des facteurs de violence, donc elles pensent le résoudre comme ça. Et évidemment, c'est pas si facile, parce que d'une part, les hommes minoritaires qui sont un petit peu exclus de tous les systèmes de pouvoir où ils pourraient récupérer un pouvoir sur la société. Donc, il renacle. Et puis, par ailleurs, la planète ayant eu besoin de se protéger a bien été obligée d'élever une sorte de caste guerrière qu'elle a reléguée en orbite sur ce qu'elle appelle le bouclier. Sur ce bouclier, on a une cellule familiale semblable à la nôtre, avec un père, une mère, qui donne naissance uniquement à des garçons. Ça, c'est la planète mère qui l'a voulu, de façon à pouvoir garder la maîtrise sur ce bouclier et que leur reproduction dépende de la planète mère. Mais on imagine sans peine les conflits qui peuvent naître entre cette planète mère et ce bouclier. Et pour en revenir à la simplicité, puisque le sujet était celui-là au départ, donc elles ont voulu cette société. La population est limitée. Il y a vraiment un nombre limité. Donc au-delà de ce nombre, on ne va pas plus loin. Il y a 7 grandes cités. Voilà, le chiffre 7 me paraissait assez intéressant, donc c'est pour ça que j'ai joué avec. Et au-delà de ces cités, on n'en créera pas d'autres, parce qu'on veut protéger la planète à tout prix et son écologie à tout prix. Et toute la gestion de la planète, la gestion des sols, les relations entre les gens... on peut dire jusqu'à la sexualité entre les hommes et les femmes, etc. C'est effectivement très simple. C'est très simple. Ça peut sembler même assez débridé au lecteur. C'est un monde très sympathique, en fait. Sauf pour certains hommes qui trouvent que, ma foi, finalement, disposer de 2 femmes pour un homme... c'est pas toujours le top. Il faudrait quand même avoir quelques petites possibilités d'interagir sur la société en plus. Et surtout, ils ne supportent pas du tout l'espèce de rapt qui se passe quand le bouclier vient chercher femme sur la planète. Puisque comme ces cellules de frères et de sœurs sont complètement fusionnelles, évidemment, les relations sont extrêmement fortes. Il n'y a pas de tabou sexuel, puisqu'il n'y a pas de reproduction. Il peut y avoir des échanges sexuels à l'intérieur de la triade, il y en a. Et donc, au moment où la sœur est enlevée pour aller sur le bouclier, c'est un déchirement total pour la triade. Voilà. Donc, il y a évidemment, c'est une société qui est également conflictuelle. Elle n'est pas toute rose.
Mais... Sur l'utopie en général, et par exemple sur Pollen, on voit que la vie est simple, mais qu'elle a nécessité une forte implication rationnelle dans la création. Et ce, dès les origines de l'utopie, que ce soit Thomas More ou tous les utopistes le suivant, on a une réelle implication théorique et une volonté de rationaliser une société pour créer cette utopie. Alors que, finalement, l'objectif, c'est une vie simple pour les individus de cette utopie.
Je pense qu'il faut revenir à la matrice même de l'utopie. Donc au livre de Thomas More, Utopia, en 1516, au tout début du XVIe siècle. Et puis évidemment, Thomas More écrit en 1516 une utopie humaniste, bien évidemment. Et je trouve que le point commun entre tout ce qu'a dit Julien et Joël, c'est que d'une part, évidemment, l'utopie étymologiquement, c'est utopos en grec, le lieu qui n'existe pas, mais c'est également e-topos, le lieu où l'on est bien. Donc je dirais que dès l'origine, puisque Thomas More a non seulement forgé le néologisme, mais il a aussi créé justement cette société et la matrice donc littéraire de l'utopie que l'on va retrouver dans toute la littérature jusqu'à aujourd'hui. Donc le monde où l'on est bien, donc ça évidemment c'est bien sûr le point commun entre les univers du Viandet de Paul Pett et donc l'utopie, je ne sais pas si on peut parler d'utopie féministe, Joël, on verra après, et l'utopie, bien sûr, de Joël Wittrebert. Alors, la deuxième chose qui, à mon avis, est importante par rapport au débat, c'est que on peut se poser la question que donc Julien Niel nous a dit, voilà, c'est le monde imaginaire, le monde où l'on est bien, où l'on retrouve des éléments effectivement de notre univers, ce qu'on veut réellement, donc un univers finalement qui est plastique, que l'on crée. C'est un petit peu la même chose pour Joël. Donc on peut se demander aussi, on est dans un lieu clos finalement, parce que les dans Pollen également, ce sont des arbres, hein, des sortes d'arbres dans lesquels vivent donc chaque famille, chaque triade. Et donc l'utopie, c'est le monde où l'on est bien, et c'est également un monde clos. Donc finalement, est-ce que c'est dans l'utopia de Thomas More, nous sommes sur une île. Donc on peut se poser la question, finalement, est-ce que l'utopie peut véritablement intégrer l'histoire et intégrer le monde ? Et on verra, bon, je ne sais pas, hein, voir avec Joël peut-être, mais qu'est-ce qui se passe finalement une fois que l'utopie littéraire, la matrice utopique, tente de pénétrer l'histoire ? Est-ce qu'au XIXe siècle, on va avoir évidemment des tentatives utopiques et on en aura jusque dans les années 70, évidemment, dans notre histoire ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Utopie, lieu clos, lieu où l'on est bien, quand elle se confronte finalement à la réalité et à la réalité de l'histoire.
Et je pense que c'est parce que c'est un lieu clos, c'est un lieu figé, parce qu'on a voulu cette société idéale. Et en fait, je l'ai montré dans un certain nombre de mes livres, dans Le Créateur chimérique, où on crée une société où on a voulu éliminer tous les ismes. Donc, on va créer un être complètement différent qui va se reproduire, donner naissance. On est beaucoup dans le thème du double dans mes livres. C'est une thématique vraiment récurrente. Donc on va donner naissance à un double exact de soi-même. Alors pareil, maîtrise parfaite de la surpopulation. Tous les humains, enfin les humains qui ne sont plus des humains, mais tous ces êtres seront noirs. Donc on n'a plus de problème de racisme. Donc on n'a plus de problème de sexisme non plus, puisqu'il n'y a plus de sexe. Hein. La reproduction se fait par sissiparité. Et voilà, donc on élimine tout ça, et puis finalement c'est pareil, on a une société qui est close, qui est figée, on lui a donné des sortes de dieux de façon à contrôler tout ce qui pourrait être déviation, parce que finalement la religion c'est bien pratique, et on s'aperçoit que on a une société qui fonctionne, qui est harmonieuse, et puis dès qu'il y a un petit déclic où il y a quelque chose qui dérape, là, en l'occurrence, on va avoir la naissance d'un double blanc qui va être investi d'une façon absolument extraordinaire, non seulement par celui qui lui donne naissance, mais aussi par toute la constellation religieuse et sociale autour de lui. Et on s'aperçoit que ça ne peut plus fonctionner. Donc, le lieu clos, il va bien tant qu'il n'y a pas quelque chose qui dépasse. Et c'est pour ça que je parle toujours d'utopie ambiguë. Et parce que l'utopie étant close, ça ne peut pas durer. Je pense que ça ne peut pas durer. C'est-à-dire, l'utopie de Thomas More, ok, elle va durer pendant quelque temps. Mais d'ailleurs, on le voit bien avec les utopies historiques. Les tentatives utopiques, je pense à celle de Victor Considérant, qui a fait la tentative phalanstérienne de Fourier aux États-Unis avec la réunion à Dallas, c'était dans 1856, je crois. J'ai noté la date quelque part.
C'est
1854. Tu l'as dit, non. La date. Voilà, donc sur les traces de Fourier, et puis financé en partie par Godin, hein, qui a lui créé le familistère, mais après l'échec de Victor Considérant, l'échec a été très rapide, parce qu'ils avaient acheté des terres infertiles, et puis, il y a eu un certain nombre de colons qui sont arrivés, pleins d'espoir pour fonder cette utopie, justement, et puis malheureusement, confrontés à la réalité... un petit peu drastique, c'est bien joli de tout mettre en commun, c'est bien joli de dire on va produire et s'autosuffire, mais ensuite on est confronté au réel, voilà. En s'appuyant un petit peu sur l'échec des tentatives, parce qu'il n'y a pas eu que Victor Considérant, il y a eu beaucoup de tentatives aux États-Unis. Notamment, et pas seulement aux États-Unis, hein, il y en a eu pas mal, hein, parce que Fourier avait vraiment, on pourrait peut-être en parler, avec l'idée du phalanstère avait quand même vraiment passionné beaucoup, beaucoup de, de philosophes, de libéraux, de gens qui réfléchissaient à ce que pourrait être une société différente. Donc c'est comme ça que Godin a créé son familistère, qui était certes critiquable, mais qui a été quand même une expérience utopique réussie pendant presque... Bon, on peut pas dire un siècle, parce qu'ensuite, ça a dévié, mais au moins un demi-siècle. Ouais.
Mais du coup, ça pose la question de l'évolution dans l'utopie. Parce que finalement, si le moindre petit dérapage fait casser une machine extrêmement bien huilée, l'utopie se devrait effectivement de rester tout le temps close. Mais on voit par exemple, dès le début, chez Thomas More, que même l'arrivée de ces explorateurs qui viennent d'Europe et qui amènent le christianisme avec eux, et ce christianisme est accepté par beaucoup de gens en utopie, et cette évolution est permise, et on peut trouver ça dans de nombreuses autres utopies. Je pense à la Nouvelle Atlantide, où Francis Bacon va essayer de donner un programme d'avancée scientifique. Mais si à la moindre évolution l'utopie s'arrêtait, finalement on ne pourrait pas avoir ne serait-ce qu'une avancée scientifique. Une avancée scientifique en utopie serait impossible. Or, on voit que dans de nombreuses utopies, un changement dans la machine, qui est parfois même l'élément scénaristique du roman, puisque les utopies sont aussi des romans, il ne faut pas l'oublier, ou des BD, enfin, sont toujours des histoires. Cette capacité d'évolution dans l'utopie permet finalement de ne pas rester clos. Je pense notamment dans Le Viandier de Polpette, quand le père de Fausto, qui veut dès le début créer cette ferme taverne, quand le père de Fausto arrive avec les cousins de Fausto qui veulent absolument reprendre la fortune familiale, ils savent gérer cela ensemble, et finalement ils s'en sortent.
Oui. Non, moi, il y a un truc qui me frappe depuis tout à l'heure, c'est de ramener ça sur le vraiment un truc littéraire, disons. Ce qui est rigolo, c'est que dans les deux cas, il y a effectivement, on parle d'un monde utopique, mais il y a donc une bulle, et on décrit aussi tous les deux apparemment une autre couche, donc une couche de quelque chose de beaucoup plus dur à l'extérieur, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression, enfin moi par exemple en tant qu'auteur, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est vraiment des espèces de rêveries où quand t'es gamin, pour te protéger justement du monde, tu vas te bâtir sous ta couette un univers de fantasmes. Et un truc dans lequel tu vas te sentir bien. Tu vas fantasmer quelque chose, et fantasmer quelque chose qui est une utopie. Et je me souviens, de gamin, je me dessinais des plans de cabane insensés avec plein de choses. Et par contre, pour que ça marche bien et pour que ça soit suffisamment confortable et excitant pour moi, j'avais besoin qu'à l'extérieur de cette bulle, il y ait des nazis ou des robots tueurs, des zombies, n'importe quoi. Et plus le danger que je construis, parce que ça allait de pair avec construire cette utopie, c'est qu'il fallait que je construise quelque chose, voilà, qui soit un contraste vraiment fort. Et en fait, pour moi le danger était fort, et plus j'avais un sentiment de protection à l'intérieur de ma bulle, plus j'étais heureux, et plus ça me sécurisait par rapport au vrai monde. Et en fait, j'en ai fait un métier. Et j'ai un peu l'impression que c'est... Parce que là, on parle vraiment de l'utopie. On n'est pas dans la politique, etc. On est vraiment dans un genre littéraire et dans pour moi, une façon pour nous de projeter des fantasmes. Enfin, pour moi, j'ai l'impression de faire toujours ce même jeu, même quand je fais Lou, mon autre série. Pour moi, c'est aussi je décris aussi un monde qui est pour moi un monde utopique, qui est préservé d'énormément de choses, qui est le monde tel que j'aimerais qu'il soit. Voilà, c'est ça. Et Pour moi, c'est un peu vraiment un prolongement d'un truc d'enfance, de construire une maison de poupées, de jouer avec des jouets, de leur faire une chouette maison. Et ensuite, ça peut prendre des proportions complètement dingues quand on essaye de rendre les choses cohérentes. Et puis c'est là où ça commence à devenir des histoires. Donc oui, non, c'est juste quelque chose qui me frappe, moi, vraiment, c'est cette nécessité de construire quelque chose de noir à côté de ça, en fait.
Mais du coup, le fait même de l'écrire, cette utopie, est-ce que si c'est un refuge, une protection, ça veut dire que finalement le monde extérieur lui-même est moins bien, moins agréable, et du coup, est-ce que chaque utopie a cette dimension critique qui est que par son existence même de protection, elle critique tout le monde extérieur.
Personnellement, dans ce que je fais, je pense dans le viandier, etc. Il n'y a pas du tout de volonté de critique par rapport à une société, etc. Il y a juste, je pense, la volonté, parce que c'est pour moi un livre, c'est ça, c'est aussi un livre, c'est aussi une utopie par définition. C'est-à-dire que c'est un univers dans lequel on va se réfugier pendant un moment. Et ce qu'on essaye de faire dans le viandier, ce que j'essaye de faire dans mes livres, c'est ça, c'est de proposer aux gens un voyage à l'intérieur de cette utopie qui va durer un petit moment. Et dans lequel il va y avoir, jamais de réponse, j'ai pas la prétention, jamais de morale non plus, mais simplement dans lequel il puisse avoir une espèce d'alternative à un moment et se dire, de donner légèrement matière à penser, de proposer simplement des sortes de visions. Pour moi, c'est pas un truc, c'est pas une. Je pense que franchement, dans mon travail, hein, j'ai pas de dimension critique par rapport à la société ou à quoi que ce soit. C'est vraiment pour moi le prolongement de ce truc de petite enfance, en fait.
Oui, alors moi, ce qui me frappe, dans l'œuvre de Julien Niel, c'est qu'il y a quand même une dimension un petit peu politique et sociale, parce que dans toute utopie, et y compris évidemment dans l'utopie de Thomas More, hein, dans La Matrice, on a bien sûr une première partie sur un peu statique d'ailleurs, hein, qui n'est pas vraiment un récit, sur la description donc de l'île d'Utopia, le fonctionnement de la société idéale, etc. Et puis il y a toute une partie quand même critique. Mais même dans Le Viandais, il y a quand même, je dirais, une partie où à la fin la société évolue finalement politiquement, puisque c'est la fin de la société féodale moyenâgeuse, et donc on arrive à une société plus égalitaire. Alors ce qui, à mon avis, nous ramène également à une dimension essentielle de l'utopie, qui est une dimension sociale, politique. Alors, ça, je pense que peut-être Joël pourra en parler après. C'est-à-dire qu'au-delà, si vous voulez, des expériences dans la deuxième moitié du 19e siècle d'utopie réalisée, donc celle par exemple de Robert Owen, à New Lanark, celle donc du familistère de Godin. Alors, l'expérience du familistère de Godin, elle est quand même très intéressante parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Émile Zola en 1901, donc on est à l'extrême fin de sa carrière, a voulu écrire donc ce qu'il a appelé les quatre évangiles, c'est-à-dire quatre romans utopiques, ce qui était pour Zola évidemment la société idéale. Et pour écrire, inventer finalement une usine idéale, qu'il a appelée la crêcherie dans le premier tome qui s'appelle Travail, il est allé visiter le familistère de Godin. Et Zola a été frappé par quelque chose, c'est que tous les appartements donc des ouvriers, on était dans une structure donc rectangulaire, et les appartements donnaient en fait, les fenêtres des appartements, donc il y avait des vis-à-vis donnés les uns sur les autres, et en fait, c'est Godin qui l'avait voulu ainsi, quelque part, pour évidemment surveiller, enfin que les ouvriers finalement se surveillent un petit peu eux-mêmes, hein, et soient en autosurveillance. Alors la remarque de Zola, hein, qui date...
Il faut quand même dire que l'idée n'était pas totalitaire, parce que non, dit comme ça, on a l'impression que c'est ça en fait. L'idée de Godin, c'était qu'il fallait réussir à obtenir de tous les participants de cette utopie, hein, parce que pour lui, c'était vraiment la tentative utopique, que cette auto-surveillance, justement, et c'est, ça paraît dur de dire surveillance, crée une espèce d'émulation entre eux, de façon à ce qu'ils ils aient envie que leurs appartements soient toujours bien, sympas, et que leurs enfants soient bien, etc. etc. Donc il y avait cette idée-là.
Oui,
non, c'était
non,
pas une idée fait, de « je surveille, et comme non, ça, non. Mon voisin va... » voilà.
Non, non, c'est vrai, mais je crois que...
Cela dit,
non,
c'est quand même...
voilà, la remarque de Joël soulève un autre problème de l'utopie. Qu'on soit dans l'utopie littéraire proprement dite ou dans l'utopie réalisée, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux faces dans l'utopie, c'est-à-dire qu'on a ce côté monde idéal, mais aussi cette, finalement cette volonté de maîtrise de l'humain, du social, de l'histoire. Et donc, du coup, cette volonté de maîtrise, eh bien, dans l'histoire de l'utopie, elle va très vite, évidemment, basculer dans ce que nous appellerons la dystopie, bien sûr, ou la contre-utopie. Et donc, bon, j'embraye évidemment sur la dystopie ou la contre-utopie, mais Zamiatin, en 1922, avec nous autres, a évidemment largement anticipé sur la vision, je dirais, stalinienne, hein, puisque ce sont dans Zamiatin, dans nous autres, donc en 1922, nous avons donc un monde, hein, qui pourrait apparaître comme un monde idéal, sauf que les maisons sont en verre et que donc tout le monde a vu sur, je dirais, la vie de tout le monde. Voilà, donc cette idée de surveillance, d'autorégulation, ça fait partie de l'utopie, mais c'est peut-être aussi une des raisons justement de l'échec des utopies. Donc là, on rentre dans un débat qui commence à être complexe parce que finalement, la politique s'en mêle et la dimension sociale peut-être se mêle aussi de l'utopie.
Je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir un architecte présent au débat, parce que j'ai vraiment l'impression que systématiquement, l'utopie, ça passe par par l'architecture. Et moi, je sais que pour Le Viandier, après avoir lu le scénario d'Olivier, j'ai passé 6 mois à faire le plan du château. Et pour que ça marche, il fallait vraiment que ça soit un truc parfaitement équilibré avec tous les personnages. Ils ont tous leur place, ils ont tous leur interaction. C'est-à-dire que si de la fenêtre d'un personnage, on peut... Et tout marche autour du lieu, et qui est pour moi le personnage central, en fait, du Viandier de Paul Pet. C'est-à-dire que les 3 albums se passeront dans un lieu unique, qui est un grand lieu unique, mais qui est cette espèce d'énorme château ferme auberge. Vous parlez d'habitation dans les arbres, c'est marrant, moi, c'est vraiment l'architecture. Et quand je parlais de construire des cabanes tout à l'heure, c'est vraiment pas. C'est marrant que ça revienne autant, quoi, que ça soit.
Et le principe du phalanstère, c'était ça. C'était si les ouvriers ne peuvent pas avoir des palais, on va créer un palais pour les ouvriers. En fait, c'était l'idée. Donc l'idée était au départ architecturale, c'était créer une structure extraordinaire où il y aurait vraiment des lieux de vie fantastiques, des théâtres, des piscines, enfin vraiment tout un et puis bon, les lieux de production sur place, enfin mais on arrive effectivement à cet espace clos.
Alors, juste une petite remarque justement par rapport à l'architecture. Nicolas Ledoux, donc à la fin du XVIIIe siècle, va créer à Arques-et-Senans une structure, donc comme d'ailleurs Robert Owen à New Lanark, ils vont créer des structures pour que la première fois, donc la production, nous sommes donc, je dirais, dans les prémices de la révolution industrielle, pour que la production soit également le moyen, finalement, de créer pour les ouvriers un mode de vie relativement confortable. Hein, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, donc fin 18e ou 19e siècle, les ouvriers vivaient dans des conditions évidemment très misérables. Et ces tentatives utopiques, ça a été vraiment les premières pour justement essayer de les faire vivre dans un monde confortable. Donc à Arques-et-Senans, par exemple, les ouvriers avaient plusieurs pièces dans leur maison, avaient l'eau courante. À New Lanark, c'est un petit peu la même chose. On a des cités ouvrières, mais avec vraiment des appartements. Je dirais que ça ressemblait évidemment un petit peu à des HLM du 19e siècle, mais même les HLM à partir des années 60, c'était quand même ça. Hein, je veux dire, c'était pour créer justement... alors nous, on voit ça ça, évidemment, avec un regard très différent aujourd'hui, mais c'était véritablement pour offrir à la classe ouvrière et aux gens les plus défavorisés, finalement, des appartements avec le confort moderne. Et ça, les utopistes l'avaient compris, je dirais, de façon, très, très rapidement. Et le familistère de Gaudin, si vous regardez un plan, par exemple, du familistère, l'architecture est évidemment essentielle, puisque tout l'ensemble de l'usine et donc des, je dirais, de la vie des ouvriers est organisé avec un théâtre, avec des endroits où on pouvait faire aussi des activités physiques, avec une maison commune, des cours d'honneur, etc. Donc vraiment un espace qui était utopique au départ et qui devient la réalité. Donc évidemment, comme le disait Julien, la structure architecturale est absolument essentielle dans la vision utopique.
Donc, depuis tout à l'heure, on parle de tentatives utopiques. Et quand on parle de tentatives, finalement, on parle aussi d'échecs. Donc, est-ce que, pour vous, l'utopie est toujours contrariée par l'histoire? Est-ce que c'est un possible qui est là, mais qui finalement... sera contrarié par l'histoire de l'humanité pour d'autres considérations.
Moi, j'ai écrit, c'est rigolo d'ailleurs parce que je m'en suis aperçu finalement un peu tardivement, mais le versant noir de Pollen, ça a été mon roman suivant. C'était le roman suivant. C'était Les Amazones de Bohème, c'est paru chez Robert Laffont, donc qui est un roman historique. Et où on a également la tentative utopique, mais historique. Alors, est-ce qu'elle est réellement historique ou est-ce qu'elle est légendaire? C'est un mythe fondateur de Prague. Et donc, ça se passe au 8e siècle. Donc, comme on a des écrits en bohème qu'à partir du 9e siècle et que c'est attesté qu'à partir du 11e siècle dans des écrits d'un moine, le moine Cosma, donc effectivement, il y a de grandes chances que ça soit légendaire, même si la princesse Libuche, que les Allemands appellent Libussa, qui avait prédit l'avenir de Prague, et qui est une princesse tout à fait emblématique, qui était réputée s'être entourée d'une garde de filles, d'une sorte d'Amazone. Et donc c'est une princesse. Enfin, vous parlez de cette princesse au Pragois ou au Tchèque, tout le monde la connaît et elle est restée complètement emblématique. Et c'est vraiment un personnage fondateur. Et donc sa chef de la garde au moment de la mort de cette princesse, donc dans la légende ou dans les faits historiques relatés. Va savoir. Donc, refuse de rentrer dans le rang, parce qu'évidemment, le prince n'est pas du tout d'avis que de garder une garde féminine, on s'en doute. Et donc, elle crée une société civile différente avec des femmes, donc qui vont être des guerrières parce qu'elles vont être obligées de défendre cette société les armes à la main, et où elles ont inversé tous les rôles. Donc, on a une tentative utopique au 8e siècle, mythe. Ou pas mythe, enfin légende ou pas légende, qui est réputée avoir duré 7 ans. Et pendant ces 7 années, ces guerrières défendent les corps d'armée du prince. Voilà. Donc, armes à la main, elles défendent leur utopie. Et évidemment, ça se termine mal. Voilà. Et donc, je montre bien dans ce roman, qui est beaucoup plus noir que Pollen, cette société de femmes, comment elles s'organisent. Comment leur tentative aurait pu réussir, mais comment elle est vouée à l'échec, effectivement, par la dimension historique.
Oui, sur l'échec, en fait, ce qui est rigolo, c'est que... Je pense qu'aussi, ça va être un des trucs qui va faire que ça va devenir un roman ou un récit. C'est-à-dire que si on se contente de décrire une utopie sans qu'il y ait d'échec et de danger... on va finalement écrire un guide touristique, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'événements. Mais ceci dit, c'est vraiment une, une question qu'on s'est beaucoup posée et qu'on continue à se poser avec Olivier, parce que pour nous, le point de départ du viandier de Paul Pet, parce que moi, par exemple, je suis désolé, c'est un sacrilège de dire ça, j'ai jamais été fan du Seigneur des Anneaux. J'adore la description de la comté, je trouve ça fabuleux et tout. Et moi, à partir du moment où il y a une prophétie et il y a Gandalf qui se pointe pour leur dire voilà, là je commence à décrocher, je préférerais rester avec les hobbits et savoir ce qu'ils mangent et leurs histoires d'amour, etc. Donc c'était oui, j'ai lu Bilbo aussi. Mais c'est pour moi, c'était le point de départ du viandier, c'était de se dire bon, on imagine les hobbits chez eux et qu'est-ce qui se passe si Gandalf il a une attaque cardiaque sur le chemin et qu'il vient jamais les faire chier et qu'on reste avec eux et qu'il fume la pipe et voilà. Et donc c'était ça, et c'était de se concentrer sur les histoires de la contrée. Et donc, bon, c'est donc une espèce de transposition de ce concept-là. Et c'est vrai qu'on a ce monde préservé. Et on va plus finalement s'intéresser à l'humain à l'intérieur de ça, dans le viandier. C'est-à-dire que c'est l'utopie et tout ça, c'est un décorum. Mais ce qui va être le plus intéressant là-dedans, pour moi, ça va être les relations entre les personnages, etc., etc. Mais effectivement, on s'est rendu compte, malgré tout, que pour conduire un récit, on avait besoin de faire se profiler l'échec de cette utopie, en fait, que c'était un bon moteur pour driver l'histoire. Mais pour autant, je pense, Olivier, qui est malheureusement pas là, est en train de travailler vachement là-dessus, sur le fait de réussir à se débarrasser de ce gimmick et de ne parler que du confort et que de ça, et de ne pas se faire se profiler cet échec. Mais pour autant, c'est la structure qu'on a choisie pour le viandier et qui marche bien aussi, quoi.
Rapidement, avant de passer aux questions dans la salle, je pense qu'il y a un autre pendant qu'il faut regarder, même si finalement dans l'histoire on a eu beaucoup d'échecs. L'utopie a aussi un rôle d'espoir, de possible, une société possible autrement, cette vision de la vie autrement, et du coup pour pas finir notre conférence sur les échecs, je pense qu'il est important peut-être de parler de cet espoir. Je sais pas si...
Bon, simplement, hein, très, très rapidement, parce que nous n'avons pas évoqué, parce que nous n'avons évidemment pas le temps. Il est évident que quand l'utopie s'est confrontée à l'histoire, bon, tout le monde connaît cette histoire-là, c'est-à-dire que l'utopie communiste, hein, l'utopie communautariste, qui évidemment était née de Thomas More, de toutes les expériences utopiques du 19e siècle, mais elle s'est confrontée à l'histoire, évidemment, lorsqu'elle a intégré, je dirais, l'idéologie communiste, et puis bon, vous connaissez évidemment la suite. Alors le gros problème à la fin du XXe siècle, évidemment, qui s'est posé, c'est après la chute justement des idéologies et finalement après la chute de l'utopie communiste, est-ce que l'utopie est réellement possible, puisque finalement nous sommes dans un monde qui est, je dirais, dominé par un seul système, une seule vision. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, alors ça traverse évidemment, hein, cette espèce de dynamique, si vous voulez, d'espoir. Hein, on parlait évidemment de vision d'espoir chez les théoriciens donc, de l'utopie, un cri d'espérance en quelque sorte. Est-ce que cette vision, évidemment, qui a traversé la science-fiction, est-ce qu'elle a été très critique? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'essaie pas justement de trouver... même dans la réalité, eh bien, une réalisation utopique, une recherche, une alternative au monde finalement qui est en train actuellement peut-être de s'épuiser, hein, tant dans la croissance que dans le système capitaliste, etc. Alors voilà, moi je crois que le problème actuel, tant peut-être dans la politique qu'en littérature, c'est d'essayer d'inventer finalement de nouveaux modèles. Et même si certains voient, je pense notamment au roman de Jean-Pierre Andrevon, Le Monde Enfin, qui vient justement d'une de ses nouvelles qui est apparue en 1975, donc dans Utopie 75, même si un auteur comme Jean-Pierre Andrevon voit finalement l'alternative utopique, pour lui, c'est finalement la disparition de l'homme sur la planète. Donc là, on est quand même dans une tentative extrême. Mais bon, peut-être que Joël a...
Le monde sans l'homme, effectivement, c'est l'utopie réalisée. Au moins, la planète est sauvée.
Super, donc une note positive, définitivement, pour finir.
Définitivement positive, effectivement.
Définitivement, oui.
Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Il nous reste oui, une dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Juste dire, sans aller jusqu'à l'extrême de pudeum du tout, mais je trouve que autant dans ce que Julien nous montre que dans ce que le Godin a voulu faire ou Fourier, l'idée c'était que les gens soient mieux, vivent mieux et vers du bon, du beau et du bien. Julien, il nous montre de la bonne cuisine. Enfin, on a envie de faire ses recettes. On a envie. L'idée c'est d'être bien, de se sentir bien. Si on retient ça de l'utopie, c'est bon, on peut rêver d'être bien, l'endroit où on serait bien et garder ce rêve-là et continuer à chercher, bah, à rêver, à imaginer des possibles où on serait bien avec ce qu'on est, nous, pauvres humains. Enfin, voilà.
Oui, non, mais tout à fait. Je crois, si vous voulez, le principe hein, de l'utopie, c'est ce qu'on appelle le principe espérance. Donc, de toute façon, je pense que l'homme sera toujours traversé par ce principe-là. Hein. C'est quelque chose qui est inhérent à l'humanité. Voilà, le problème après, c'est l'invention. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se créer des petites utopies plutôt intimistes. Mais après, il faut quand même essayer de réfléchir à un système qui nous permettrait peut-être de vivre ensemble, c'est-à-dire de réunir finalement ces petites utopies individuelles. Alors, dans la discussion avec Joël, on avait évoqué aujourd'hui dans la pensée alternative, il y a par exemple le principe de la décroissance. Par exemple le principe du monde de la lenteur, on va dans un monde qui va de plus en plus vite, qui nous stresse de plus en plus, on est de moins en moins bien, et donc les gens qui réfléchissent à l'alternative réfléchissent à un monde où on prendrait le temps, et ça c'est Mais vraiment je... un monde alternatif.
Slow food, slow life,
Gandier, c'est exactement ça.
Ralentir.
Même au niveau de la structure de l'histoire, elle débute au bout de 80 pages. C'est-à-dire que tout le début, on prend le temps d'avoir des personnages qui se réveillent, qui font des œufs, qui sont hyper posés, etc. Et pour moi et pour Olivier, c'est clair que ça correspond aussi à une utopie qu'on réalise au quotidien. C'est-à-dire qu'on vit un peu coupé du monde. C'est un témoignage de tout ça. Et puis, je pense que c'est... C'est ça aussi, c'est pas complètement chimérique, c'est-à-dire que c'est aussi un art de vivre et une façon de pas complètement rentrer dans une frénésie et de pas être complice de certaines choses. Enfin, c'est là où il y a peut-être une portée politique finalement, c'est effectivement dans le fait de prendre le temps. De prendre le temps de lire des livres, de prendre le temps de faire la cuisine, de voir les amis, de parler aux gens qu'on aime. Enfin voilà, c'était juste un témoignage de ça. Et c'est là où l'utopie, pour moi, elle est pas si utopique que ça. C'est-à-dire que moi, le monde dans lequel je vis est pas très éloigné de celui de Pol Pot. Ensuite, bon, pour que ça marche vraiment, il faut avoir des œillères, parce que c'est vrai que si tu regardes à côté de toi, tous les gens ne vivent pas comme ça, et tous les gens n'ont pas la possibilité de vivre dans cette utopie. Mais il y a peut-être dedans, j'espère, hein, des recettes qui permettent d'arriver à atteindre une forme d'équilibre et de bonheur. Ça, c'est ce qu'on a essayé de faire.
Oui, je pense que l'utopie, aujourd'hui, a une ambition beaucoup plus simple, finalement, qu'au départ. Qu'on retrouve évidemment dans l'œuvre de Julien et Olivier, c'est-à-dire que c'est une utopie vraiment qui touche notre quotidien, parce que finalement au départ l'utopie avait de grandes ambitions, c'est-à-dire nous proposer un nouveau modèle social, un nouveau système qui pourrait peut-être s'étendre à la planète, etc. Donc quand même une ambition internationale gigantesque. Et aujourd'hui on est revenu évidemment à et ça c'est quelque chose que les gens ressentent peut-être aussi à travers un certain nombre de mouvements de protestation, c'est-à-dire essayer de revenir à une vie beaucoup plus simple. Et bon, la boucle est bouclée par rapport aux toutes premières images de l'utopie. Au Moyen-Âge, c'est l'âge d'or, le pays de Cocagne, voire même l'utopie pure. Voilà, l'abbaye de Thélème également, bien sûr, de Rabelais. Voire même, je dirais, les images du Nouveau Monde, puisque quand les puritains sont partis en Amérique, ils voulaient créer une utopie puritaine, revenir à la simplicité de la vie.
Mais je pense qu'il y a une grande différence entre l'utopie et le pays de Cocagne. On peut effectivement ralentir ce monde fou, ce monde rapide, ce monde. Mais la différence avec le monde, le pays de Cocagne ou l'Éden, tout simplement, parce que c'est toujours cette figure-là qu'on a. C'est un jardin originel. Et ben c'est l'Eldorado exactement. Et ben tout ça, ça se résume en le fait qu'il n'y a pas de société, parce qu'il n'y a pas besoin de société dans ces dans le pays de Cocagne, dans l'Éden. On a envie d'une pomme, on prend une pomme. On n'a pas besoin de société. L'utopie est toujours une société. L'utopie a toujours, c'est toujours un modèle social parce que elle a toujours besoin du travail, elle a toujours besoin de la cohésion. Un individu seul ne peut pas vivre en utopie. Un individu seul peut vivre au pays de Cocagne, dans l'Éden. Et c'est ça qui fait la force de l'utopie pour moi, c'est que elle est réellement dans la force de création d'une société et en même temps dans un essai de différenciation de la société actuelle.
Des modes de production, de la gestion du système monétaire, il n'y a éventuellement plus de système monétaire, etc. Les échanges entre les gens, tout change en fait.
Et du travail tout simplement.
Du travail.
Le travail chez Fourier notamment est la base de toute l'utopie.
Absolument.
Ici.
Bon, moi j'aurais juste voulu intervenir sur un détail, mais qui est dans le vocabulaire. L'utopie, c'est un autre lieu. Or, un grand nombre d'utopies écrites sont fixées non pas dans un autre lieu, mais dans le futur. Et ce déplacement de la localisation à la situation temporelle est quelque chose qui joue un rôle, à mon avis, dans la notion.
L'utopie,
dans l'évolution de la notion.
L'utopie, c'est nulle part. C'est pas un autre lieu. C'est nulle part. Et du coup,
C'est le lieu qui n'existe pas. Donc c'est.
Oui, mais la plupart des utopies, quand on parle de réaliser ou quand on présente ces programmes d'utopie comme futurs, c'est qu'on déplace justement du nulle part à demain. Et là, il y a quand même un changement de conception important.
Oui. Alors, pour vous savez. Moi, je pense que vous avez raison dans le sens où l'utopie traverse quand même, je dirais, la science-fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a soit de l'anticipation, soit des récits de science-fiction qui sont vraiment travaillés par l'utopie. Alors, pour moi, il y a une nouvelle, par exemple, c'est la nouvelle de Serge Lehmann, qui travaille sur ce concept-là, qui se situe dans un futur... c'est Nulle part à l'Hyverion, excusez-moi, le titre de la nouvelle. Nulle part à l'Hyverion, hein, d'ailleurs, le titre est évidemment fait référence à l'utopie. Et donc là, nous sommes dans un futur... enfin, vraiment dans l'anticipation, c'est-à-dire que nous sommes dans un futur pas très éloigné. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que l'utopie existe réellement ? Pas vraiment, on la trouve quand même essentiellement, elle a intégré donc la science-fiction. Et donc bien sûr, on va retrouver ces mondes utopiques essentiellement, alors soit dans un espace atemporel, comme par exemple le monde de Julien, soit dans un futur pas très éloigné, ou alors carrément dans un futur, je dirais, qui nous est quasiment inaccessible. Donc finalement, on revient quand même à chaque fois à la définition qui était bien sûr ce monde de nulle part, parce que le futur, pour l'instant, c'est dans une chronologie temporelle, mais ça ne nous est pas accessible complètement. Voilà.
Et ça va être le moment où ça va être la fin, donc. Après le ralentissement.
Moi, j'aime bien l'idée dont parlait Julien du livre comme utopie.
Ouais.
Voilà, parce que ça, il faut le préserver, notre livre comme utopie.
Et donc, je ne sais pas si vous êtes en dédicace après, puisqu'on est bientôt à l'heure du déjeuner. Oui, et donc, ils sont en dédicace juste après, donc n'hésitez pas.
Non, moi, je vais déjeuner.
D'accord.
Et après.
Ça marche. Merci à vous.